Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Lorsque la barbe de ton voisin a pris feu, arrose la tienne. Le drame du Martiniquais, confiait Aimé Césaire à José Pivin au milieu des années 60, c'est qu'il n'a pas su se servir de la culture qui venait de l'extérieur pour épanouir sa vraie culture. À la Martinique, on ne veut rien savoir de l'Afrique. Une vie qui se confond avec la cause de l'Afrique et des Antilles, une vie d'écrivain, une vie d'homme politique, Aimé Césaire, sur France Culture, le 30 janvier 1966.
Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Aimé Césaire et la révolte. Des extraits des œuvres de Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal, discours sur le colonialisme, ferment et les armes miraculeuses, seront interprétés par Jean Negroni, Jean Topard, Alain Cuny et Médondo. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentehen, assistant Daniel Long.
Au cours de ces instants que nous allons passer avec Aimé Césaire, nous verrons un homme entreprendre l'œuvre de défrichement qui doit permettre aux valeurs humaines de s'épanouir sous leur plus bel aspect, en liaison naturelle avec le sol des plantes et des climats et des souvenirs encore agissants du passé. Aimé Césaire, vous représentez pour beaucoup la révolte de l'homme noir devant les formes pernicieuses de la civilisation occidentale. Voulez-vous nous parler des origines de cette révolte et d'abord peut-être de votre enfance?
Je suis né à la Martinique, bien sûr, mais je suis né dans un petit village du nord de la Martinique qui s'appelle Basse-Pointe. Et je dois dire que cette image de mon village natal a une très grande importance dans mon œuvre. Beaucoup d'images, de métaphores, jouent un peu le rôle d'images obsédantes et je m'aperçois que la source, en réalité, c'est ce petit village de Basse-Pointe dans lequel je suis né. Et contrairement à ce que le nom semble indiquer, il ne s'agit pas du tout d'une vallée. C'est au contraire ce qu'on appelle là-bas un morne. Autrement dit, une petite montagne est une pointe qui est baignée par une mer absolument démontée. Et c'est un village qui est adossé à la montagne Pelée, à la plus haute montagne de la Martinique. Une population mixte de pêcheurs, de paysans. À l'époque, du moins, on y fabriquait du sucre et du rhum. Et il y avait là vraiment toute une population qui est très typique de la population martiniquaise.
Et que faisaient vos parents à cette époque-là?
Mes parents étaient petits fonctionnaires, mais j'ai été très mêlé à la vie des travailleurs de l'endroit. Je m'aperçois que dans ma poésie, souvent, il fait allusion à ces troupeaux de bœufs qui sont picorés par ce qu'on appelle là-bas des merles, mais qui ne sont pas des merles, c'est un nom approximatif, ce sont à vrai dire des cuiscals, c'est un peu l'équivalent des pique-bœufs d'Afrique. Ou bien encore ces immenses champs de canne au mois de janvier qui poussent leurs petites fléchettes, c'est encore une image chez moi. Quand j'ai voulu évoquer l'image de la race noire qui, malgré toutes les difficultés, et conserve la tête hors de l'eau, un peu une image, si vous voulez, et de la vitalité, de la combativité de ce groupe d'hommes, bien très naturellement, j'ai été amené à évoquer l'image de tous ces enfants, tout nus, qui chevauchent les vagues, mais des vagues énormes, des vagues de 12 ou 13 mètres, sur une simple planche. Et l'enfant disparaît complètement au moment où on s'y attend le moins. On voit la petite tête noire au sommet de la vague bleue, une frangée d'écume. Ou bien encore l'image du loup chariot qui transporte la canne à sucre au soir de récolte et qui gèle, qui creuse de profondes fournières dans l'argile. Voilà des images qui reviennent assez souvent chez moi.
Et évidemment, à ces époques de très jeune enfance, les questions de misère ou de choses semblables n'existent pas. On ne se préoccupe pas trop de ces questions-là, j'imagine.
Pas trop. Cependant, j'y étais quand même assez sensible. Pas à la misère, mais dans mon idée, ce village a toujours été dominé, si vous voulez, par le trio. Le gendarme, qui est un grand personnage, le curé, qui est un très haut personnage spirituel, et puis le colon que nous appelons là-bas le béquet. C'est le créole, c'est le blanc qui est né aux Antilles. Dans le village, si vous voulez, il y avait trois blancs qui vraiment formaient l'aristocratie. Et j'ai perçu ça très tôt, je suis persuadé que ça a certainement contribué, non pas à former ma pensée, mais en tout cas certainement, ça m'a ouvert les yeux sur une certaine réalité. Moi, je me rendais bien compte de la terreur dans laquelle les villageois vivaient, de l'importance que ça avait d'être bien ou d'être mal et avec le colon, parce que c'est de lui que dépendait la vie. Si on vous refusait du travail à ce qu'on appelait l'usine, qui était la distillerie ou la fabrique de sucre, eh bien, il est clair que c'était vraiment la ruine et la catastrophe. Le patron de l'usine, le grand béquet, c'était un être presque mythique. Et c'était vraiment le seigneur.
Plus important que le curé et le gendarme ?
Mais ils s'entendaient tellement bien, on avait un peu l'impression que l'un vivait à l'ombre de l'autre.
Magique. Avec une lèche de ciel sur un quignon de terre. Vous, bête qui sifflez sur le visage de cette morte. Vous, libre fougère parmi les roches assassines, à l'extrême de l'île parmi les conques trop vastes pour leur destin. Lorsque midi colle ses mauvais timbres sur les plis tempétueux de la louve, hors cadre de science nulle, et la bouche aux parois du nid, suffète des îles englouties, comme un sou. Avec une lèche de ciel sur un quignon de terre, prophète des îles oubliées, comme un sou, sans sommeil, sans veille, sans doigt, sans palancre. Quand la tornade passe, rongeur du pain des cases, vous, bête, qui sifflez sur le visage de cette morte, la belle once de la luxure et la coquille operculée, molle glissement des grains de l'été que nous fûmes, belles chairs à transpercer du trident des aras, lorsque les étoiles chancelières de Saint-Branche trèflent au ciel comme des gouttes de lait chu, réajuste un dieu noir, mal né de son tonnerre.
Totem. De loin en proche, de proche en loin, le sistre des circoncis et un soleil ormeur, buvant dans la gloire de ma poitrine un grand coup de vin rouge et de mouche. Comment d'étage en étage, de détresse en héritage, le totem ne bondirait-il pas au sommet des buildings, sa tiédeur de cheminée et de trahison? Comme la distraction salée de ta langue destructrice, comme le vin de ton venin, comme ton rire de dos de marsouin dans l'argent du naufrage, comme la souris verte qui naît de la belle eau captive de tes paupières, comme la course des gazelles, de celle fin de la neige sur la tête sauvage des femmes et de l'abîme, comme les grandes étamines de tes lèvres dans le filet bleu du continent, comme l'éclatement de feu de la minute dans la trame serrée du temps, comme la chevelure de genêt qui s'obstine à pousser dans l'arrière-saison de tes yeux à marine. Chevaux du quadrige, piétinez la savane de ma parole vaste ouverte. Du blanc au fauve, il y a les sanglots, le silence, la mer rouge et la nuit.
Un autre aspect de la vie quotidienne qui, je crois, vous a frappé aussi assez tôt, c'est la médiocrité de la qualité de certains esprits.
La médiocrité est dans tout ce qui a été touché par tous ces gens qui se croient, les porte-paroles de la civilisation, qui sont en réalité des demi-instruits. Enfin bref, la leader bourgeoise et plus encore la leader petite bourgeoise, avec le supplément colonial. Tout ce que ça cache de médiocrité, de manque d'envergure, de bêtises pontifiantes, de lâcheté, de l'arbinisme aussi. Enfin, c'est un tableau qui, je crois, se retrouve un petit peu partout. Mais enfin, en milieu colonial, il est sûr que c'est là une chose extrêmement sensible.
Et lorsque vous alliez au lycée à la Martinique, qu'est-ce qui vous frappait le plus ? Était-ce la question des élèves blancs ?
De mon temps, le blanc n'allait pas au lycée. C'est un peu le féodal, ayant peu d'instruction, qui, quand ils allaient dans un collège, ils allaient dans un collège religieux. Et le lycée, c'était déjà une école pour le peuple. Mais de temps en temps, il y avait bien un blanc, mais enfin, ça n'était pas du tout, ça ne posait pas un problème. Mais ce qui m'a frappé dans ces milieux-là, c'était vraiment la dépersonnalisation et la prime qui était donnée à la dépersonnalisation. La littérature qui nous était enseignée n'avait strictement aucun rapport avec les traditions du pays. L'histoire, n'en parlons pas, il est tout à fait évident, l'histoire nous était enseignée exactement comme elle était enseignée en France. Et un Martiniquais qui sortait de là avait de l'Afrique, mon Dieu, l'opinion que pouvait avoir le petit Français de l'année 1892 ou l'Anglais de la Reine Victoria. Un mépris total des valeurs indigènes. L'idéal étant d'éliminer tout ce qui pouvait rappeler le pays. Et je crois que très vite, je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte de cette séparation, de cet abîme qui séparait la vie de la culture. Et le résultat, évidemment, c'est que la culture était une chose terriblement artificielle et, je dirais même, à mon avis, traumatisante.
Mais vous, quand vous parlez de local, vous parlez des Antilles même ou du continent africain ?
Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Je sais bien que ce que je dis là fera beaucoup hurler les Martiniquais, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Dans mon esprit, j'établis une synonymie à peu près parfaite entre local, populaire et africain. Ce qui est vraiment local, c'est ce qui est populaire. Et ce qui est populaire, c'est ce qui est africain en définitive. Bien sûr, la Martinique est un pays où il y a eu rencontre de civilisation. Pour un Martiniquais conformiste, il vous dirait qu'il y a une seule civilisation et que les Martiniquais sont des Français. Mais bien, c'est ça qu'on lui a appris à l'école. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'effectivement, et comme c'est un pays qui, depuis 3 siècles, a été soumis à un processus d'assimilation, les valeurs dites supérieures de la civilisation sont des valeurs qui viennent d'Europe. La langue, si vous voulez, tout le côté rationnel de la vie, mais tout ça vient de l'Europe. Mais, à mon avis, tout ça est superficiel. Le vrai fond de l'homme est tout à fait différent. Et ce vrai fond, c'est un fond africain. Ils ne veulent pas l'avouer, ils se mentent à eux-mêmes, parce que pendant très longtemps, dans l'esprit du colonisateur, tout ce qui était noir, tout ce qui était africain, était assimilé à du sauvage. Par conséquent, il fallait réfréner, il fallait tuer en soi le sauvage. Mais il ne se tue pas si facilement que ça. Et il n'est que de se reporter à la vie populaire, et vous verrez que si dans la vie officielle, l'Afrique n'est nulle part, dans la vie populaire, l'Afrique est partout. Et lorsque j'ai été à Dakar, j'ai reconnu les miens. Lorsque j'étais à Conakry, j'ai reconnu les miens. Il y a un proverbe à la Martinique qui dit, par exemple, que lorsque la barbe de ton voisin a pris feu, arrose la tienne. Eh bien, 3 jours, je lis un livre sur les Peuls et on cite ce proverbe. Donc, parce que c'est un proverbe qui est d'origine Peul. Mais bien entendu, 99% des Martiniquais ignorent tout à fait l'origine de ce proverbe. Un des drames, précisément, de le Martiniquais, c'est cela. C'est qu'il est une chose et il a une culture qui est autre chose. Il n'a pas su se servir de cette culture qu'il recevait de l'extérieur pour épanouir sa vraie culture. Par conséquent, c'est un être qui est extrêmement malheureux et qui est déchiré parce qu'il n'a pas su assumer toute sa personnalité.
Et à quel moment vous êtes-vous rendu compte de cette inadaptation ?
J'ai vraiment pris conscience des raisons de ce malaise lorsque je suis arrivé en France et lorsque j'ai eu un certain recul et que j'ai rencontré d'autres hommes de couleur, soit des écrivains noirs d'Amérique et surtout des jeunes Africains qui étaient étudiants comme moi à Paris, par exemple Saint-Gor. À la Martinique, c'est sûr et qu'on ne veut rien savoir de l'Afrique. Alors, pour eux, moi, je les choque beaucoup parce qu'il est bien connu que c'est-à-dire, ce n'est pas un Antillais, c'est un Africain. Or, j'estime qu'en prêchant ce respect pour les valeurs africaines, je considère au contraire que c'est un très bon Antillais, un très bon Martiniquais, parce que ce peuple Antillais ne peut se comprendre dans sa singularité et son réalité que si vraiment on tient compte de l'énorme et décisif apport africain.
À cette époque d'adolescence, quelles étaient vos aspirations particulières, vos désirs à réaliser ?
Probablement, je me suis toujours connu aspirant à autre chose, si vous voulez. C'est sûr. Mais je crois que la révolte a joué un très grand rôle. Vraiment, le ressort poétique a été d'abord la révolte contre cette médiocrité, contre cette oppression dont je discernais mal les causes, contre cette religion, et tout cela, vraiment, j'avais vraiment besoin de faire sauter un petit peu toute cette carapace, enfin tout cela, j'avais un peu l'impression que j'étais étouffé. Et quand j'ai quitté la Martinique, ça a été vraiment avec la plus grande joie, avec même l'impression que jamais je n'y reviendrai, en fait.
Et matériellement, comment avez-vous pu vous en aller ?
J'ai reçu mon baccalauréat, j'ai eu une bourse et puis je suis parti en France. Une fois en France, d'abord, j'ai commencé par faire mes études parce que je voulais en finir. Et puis alors...
Mais que vouliez-vous devenir ?
Professeur. Donc. Professeur. Et je suis entré en Cagne, au lycée Louis-le-Grand. Et je dois dire que c'est là que j'ai connu tout de suite Senghor. Et ça a été très important pour moi, Senghor et puis les Africains.
Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à écrire ? Ou bien vous écriviez avant, sûrement ?
Quand ai-je commencé à écrire ? Eh bien, j'ai commencé à écrire, si vous voulez, à cette époque-là. Bon, mais je me suis rendu compte très vite que ça ne valait strictement rien. Tantôt, ça faisait un peu parnassien, tantôt, ça faisait un petit peu symboliste, en fait, tout ce que l'on veut. Et c'était en tout cas un bon alexandrin français. Et j'ai tout déchiré. Un beau jour, je me suis décidé à écrire quelque chose sous la Martinique. Étant très mécontent de la forme poétique telle que j'avais pratiquée jusqu'à présent, j'ai dit non, et surtout, tu n'es pas poète, tu vas écrire ça en prose.
C'était le cahier.
Et c'est devenu le cahier. Autrement dit, j'ai l'impression que je n'ai découvert la poésie qu'à partir du moment où j'ai essayé de tourner le dos à la poésie.
Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en. Je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon. Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent. Je délassais les monstres et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs, à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes, et par précaution, contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. Au bout du petit matin, bourgeonnant d'anses frêles, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, des Antilles dynamitées d'alcool échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échouées. Au bout du petit matin, l'extrême trompeuse désolée escarre sur la blessure des eaux, les martyrs qui ne témoignent pas, les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards, une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée, une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement, un vieux silence crevant de pustules tièdes, l'affreuse inanité de notre raison d'être. Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, les volcans éclateront, l'eau nue emportera les taches mûres du soleil, et il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède picoré d'oiseaux marins. La plage des songes et l'insensé réveil. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, inerte, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante. Indocile à son sort, muette, contrarié de toute façon, incapable de croître selon le suc de cette terre, embarrassée, rognée, réduite, en rupture de faune et de flore. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée. Et dans cette ville inerte, cette foule criarde si étonnamment passée à côté de son cri comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier parce qu'on le sent si bien lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle dans quelque refuge profond d'ombre et d'orgueil, dans cette ville inerte, cette foule à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine. Cette foule, si étrangement bavarde et muette. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, des fidélités trahies du devoir incertain qui se dérobe, et cet autre petit matin d'Europe. Partir. Comme il y a des âmes hyènes et des âmes panthères, je serais un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer. Sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne, un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mandigo. Mais est-ce qu'on tue le remords, beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de haut en taux? Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirai orage, je dirai fleuve, je dirai tornade, je dirai feuille, je dirai arbre. Je serai mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerai comme du sang frénétique sur le courant lent de l'œil des mots en chevaux fous, en enfants frais, en caillots, en couvre-feu, en vestiges de temples, en pierres précieuses, assez loin pour décourager les mineurs. Qui ne me comprendrait pas? Ne comprendrait pas davantage le rugissement du tigre.
Écoutez le monde blanc, horriblement las de son effort immense. Ses articulations rebelles, craquées sous les étoiles dures. Ses raideurs d'acier bleu transperçant la chair mystique. Écoute ses victoires proditoires, trompetées ses défaites. Écoute aux alibis grandioses son piètre trébuchement. Pitié pour nos vainqueurs omniscients et naïfs. Eya pour la douleur au pis de larmes réincarnées. Pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Eya pour la joie, eya pour l'amour. Eya pour la douleur au pis de larmes réincarnées. Et voici, au bout de ce petit matin, ma prière virile. Que je n'entende ni les rires, ni les cris. Les yeux fixés sur cette ville que je prophétise, belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissantes de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur. Ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongée du bras. Faites-moi commissaire de son sang, faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison, faites de moi un homme d'initiation, faites de moi un homme de recueillement, mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ses œuvres hautes. Voici le temps de se cindre les reins comme un vaillant homme. Mais les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car, pour me cantonner en cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. La sommée, libre enfin de produire, de son intimité close la succulence des fruits. Et voyez l'arbre de nos mains, il tourne pour tous, les blessures incises en son tronc. Pour tous, le sol travaille et griserie vers les branches de précipitations parfumées. Mais avant d'aborder au futur verger, donnez-moi de les mériter sur leur ceinture de mer. Donnez-moi mon cœur en attendant le sol. Donnez-moi sur l'océan stérile, mais où caresse la promesse de la mûre. Donnez-moi sur cet océan d'hiver l'obstination de la fière pirogue et sa vigueur marine. Tenez, suis-je assez humble? Ai-je assez de cales aux genoux, de muscles aux reins, rampé dans les boues, s'arc-bouté dans le gras de la boue, porté, sol debout, horizon debout, ciel debout, mort debout, oh, noms à réchauffer dans la paume d'un souffle fiévreux. Siméon Piquine, qui ne s'était jamais connu ni père ni mère, qu'aucune mairie n'avait jamais connu et qui, toute une vie, s'en était allé cherchant son nom. Grande Vorka, celui-là, je sais seulement qu'il est mort, broyé par un soir de récolte. C'était, paraît-il, son travail de jeter du sable sous les roues de la locomotive en marche pour lui permettre au mauvais endroit d'avancer. Exélié Vété Kongolo Lemke Busolongo, quel guérisseur de ses lèvres épaisses sucerait tout au fond de la plaie béante le tenace secret du venin. Quel précautionneux sorcier déferait à vos chevilles la tiédeur visqueuse des mortels anneaux. Présence, je ne ferai pas avec le monde ma paix sur votre dos. Île, cicatrice des eaux. Île, évidence de blessure, île, miette, île, informe, île, mauvais papier déchiré sur les eaux, île, tronçon, côte à côte, fiché sur l'épée flambée du soleil. Raison rétive, tu ne m'empêcheras pas de lancer, absurde, sur les eaux, au gré des courants de ma soif, votre forme, il difforme, votre fin, mon défi. Ils annelés, unique carène belle, et je te caresse de mes mains d'océan, et je te vire de mes paroles asilées, et je te lèche de mes langues d'algues, et je te cingle hors flibuste. Ô mort, ton palude pâteux, naufrage, ton enfer de débris, j'accepte. Au bout du petit matin, flaques perdues, parfums errants, ouragans échoués, coques, dématés, vieilles plaies, os pourris, buées, volcans enchaînés, morts mal racinés, crier amer, j'accepte. Et mon originale géographie aussi, la carte du monde faite à mon usage, non pas teinte aux arbitraires couleurs des savants, mais à la géométrie de mon sang répandu, j'accepte. Et la détermination de ma biologie, non prisonnière d'un angle facial, d'une forme de cheveux, d'un nez suffisamment aplati, d'un teint suffisamment mélanien, et la négritude, non plus un indice céphalique, ou un plasma, ou un soma, mais mesuré au compas de la souffrance, et le nègre chaque jour plus bas, plus lâche, plus stérile, moins profond, plus répandu au dehors, plus séparé de soi-même, plus rusé avec soi-même, moins immédiat avec soi-même. J'accepte tout cela. Et voici soudain que force et vie m'assaillent comme un taureau et l'onde de vie circonvient la papille du morne. Et voilà toutes les veines et vénules qui s'affairent au sang neuf et l'énorme poumon des cyclones qui respire et le feu thésaurisé des volcans et le gigantesque pouls sismique qui bat maintenant la mesure d'un corps vivant en mon ferme embrasement. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi. Les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant, dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit, et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite.
Et comment s'est effectuée pour vous la rencontre avec le surréalisme ?
Ma rencontre avec le surréalisme n'a pas été une chose simple. Je ne connaissais pas le surréalisme, comment dire, je ne connaissais pas Breton. Mais le surréalisme était dans l'air. À cette époque-là, du cahier, j'avais quand même lu Rimbaud. J'avais quand même lu le Tréamont. Et je m'étais, si vous voulez, il y avait eu une démarche poétique qui était quand même tout à fait parallèle à celle du surréalisme. Et par conséquent, il n'était pas tellement étonnant que les résultats fussent à peu près semblables.
Et comment s'est passée pour vous la période de la guerre ?
J'avais fini mes études et j'ai été nommé professeur à la Martinique. Et j'étais à 2 jours de la Martinique, sur mer, quand la guerre de 39 a été déclarée. À ce moment-là, j'étais professeur à la Martinique et la mobilisation est intervenue. Ma classe n'a pas eu le temps, comme il n'y a pas de caserne, on n'a pas pu prendre tout le monde en même temps. Et on n'a pas pu rappeler tout le monde sous les armes, donc c'était échelonné, on rappelait les gens classe par classe. Et puis, les classes partaient au fur et à mesure qu'il y avait des bateaux. Les communications étaient de plus en plus difficiles. Et l'armistice a eu le temps d'être signé avant que ma classe soit rappelée. Voilà, c'est comment les choses se sont passées. Et donc, je suis resté pendant la guerre comme professeur à la Martinique. Et à ce moment-là, ne pouvant pas m'exprimer, et j'ai eu l'idée de former et de fonder une revue poétique qui s'appelait Tropique. C'était une chose inconcevable à la Martinique. Personne n'avait jamais eu l'idée de fonder une revue poétique encore moins. Le surréalisme, personne n'avait jamais entendu parler. Et j'ai bénéficié pendant très longtemps d'une sorte de très grande tolérance parce qu'on a cru que c'était complètement une revue de fous, de fada, et par conséquent, on n'avait pas à s'en soucier. Le gouvernement avait autre chose à faire et on m'a laissé tranquille. Jusqu'au jour où nous avons quand même publié une série de textes sur l'Afrique, et où il était tout le folklore antillais, et il y avait une sorte de retour au martinicanisme, si vous voulez, qui a déplu au gouvernement, et à ce moment-là, on a fait jouer la censure. Mais j'ai changé d'imprimeur, et puis les événements se sont précipités, la revue a été interdite officiellement, et puis la libération est arrivée.
Est-ce que vous croyez que la façon enfin, de s'exprimer du surréalisme qui, à mon avis, agit assez directement sur les sens, elle est un moyen de communication facile avec des gens assez simples, comme vous pouviez peut-être vous en rendre compte là-bas, ou pas plus là-bas qu'ailleurs.
Moi, oui, c'est, si, toujours, à ce moment-là. C'est toujours un problème. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais enfin, comment se fait-il ? Mais qui comprendra ces textes, qui comprendra ces poèmes ? Et c'est vrai.
Il ne s'agit peut-être pas que de comprendre.
D'ailleurs. Voilà. Voilà, et c'est toujours ce que je réponds. Il ne suffit pas que de comprendre. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que des gens qui sont considérés comme cultivés, autrement dit, que tout semble préparé à comprendre ce genre de texte, ne les comprennent pas. Et d'autres gens qui sont beaucoup moins armés mentalement, les comprennent comme si c'était un langage avec lequel ils sont de plein pied. La pensée occidentale a été à contresens de ce que Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage, mais les gens qui sont plus près de la nature, si vous voulez, eh bien, ils font du surréalisme tout à fait naturellement, parce qu'ils ont encore le sens du symbole. Et Senghor a montré que les poèmes africains, les poèmes sérères, eh bien, traduisés en français, On jurerait des poèmes surréalistes. C'est pourquoi le surréalisme nous a quand même intéressés dans ces pays coloniaux ou ex-coloniaux. C'est parce que, en réalité, le surréalisme, c'était une tentative de l'esprit européen pour rejoindre l'esprit non-européen, même à la Martinique, où quand même tout cela est très édulcoré, très dénaturé, bien sûr, très trituré. Mais il y a des gens qui parleront devant vous, quand ils parlent non pas en français mais en créole, un langage absolument allusif, et cette conversation peut durer une demi-heure, vous n'y comprenez rien. Mais ces deux créoles se comprennent. Et cette incompréhension ne vient pas de la langue. Vous avez beau comprendre tous les mots, mais c'est un langage, c'est un style, c'est une manière de parler qui est tout en allusion. Et les gens se comprennent et vous ne comprenez pas.
Et Breton, où l'avez-vous rencontré?
Je l'ai rencontré à la Martinique. Et parce que à ce moment-là, il fuyait la France, il était hier en Amérique et son bateau est passé à la Martinique. Et alors, il est descendu dans une petite librairie et il a vu une revue tropique et il a ouvert ça et puis il a vu des poèmes et il a vu des textes de moi. Il a voulu tout de suite me connaître et il a été très, très aimable avec moi. Nous sommes restés en correspondance et lorsque j'ai voulu republier le cahier, il s'est offert pour faire la préface du cahier de retour au pays natal.
Et sur ce mode d'expression de l'époque surréaliste d'Aimé Césaire, voici les armes miraculeuses.
Le grand coup de machette du plaisir rouge en plein front, il y avait du sang et cet arbre qui s'appelle flamboyant et qui ne mérite jamais mieux ce nom-là que l'éveil de cyclones et de villes mises à sac. Le nouveau sang, la raison rouge, tous les mots de toutes les langues qui signifient mourir de soif et seul, quand mourir avait le goût du pain et la terre et la mer un goût d'ancêtre. Et cet oiseau qui me crie de ne pas me rendre, et la patience des hurlements à chaque détour de ma langue. La plus belle arche, et qui est un jet de sang. La plus belle arche, et qui est un cerne lilas. La plus belle arche, et qui s'appelle la nuit. Et la beauté anarchiste de tes bras mis en croix. Et la beauté eucharistique et qui flambe de ton sexe, au nom duquel je saluais le barrage de mes lèvres violentes. Il y avait la beauté des minutes, qui sont les bijoux au rabais du bazar de la cruauté. Le soleil des minutes et leur joli museau de loup que la faim fait sortir du bois. La croix rouge des minutes qui sont les murènes en marche vers les viviers. Et les saisons et les fragilités immenses de la mer qui est un oiseau fou cloué feu sur la porte des terres cochères. Il y avait jusqu'à la peur telle que le récit de juillet des crapauds, de l'espoir et du désespoir et la guet d'astre au-dessus des eaux. Là où la fusion des jours qu'assure le borax fait raison des veilleuses gestantes, les fornications de l'herbe à ne pas contempler sans précaution, les copulations de l'eau reflétées par le miroir des mages, les bêtes marines à prendre dans le creux du plaisir, les assauts de vocables tous à bord fumant pour fêter la naissance de l'héritier mâle, en instance parallèle avec l'apparition des prairies sidérales, au flanc de la bourse au volcan d'agave, d'épave de silence, le grand parc muet avec l'agrandissement silurien de jeux muets, aux détresses impardonnables de la chair de bataille, selon le dosage, toujours à refaire des germes à détruire.
Après la guerre, pourquoi avez-vous voulu rentrer en France?
Alors oui, vous savez que c'était cette époque absolument extraordinaire où on croyait, après la guerre, que tout était possible, qu'on allait refaire le monde, et que personne n'avait le droit de rester sous sa tente. Et à ce moment-là, des amis, des jeunes sont venus me voir, me dit voilà, il faut absolument finir avec cette vieille politique, tant pis, il faut se lancer. Nous avons des élections municipales, on te demande de venir avec nous, de venir sur notre liste. Alors, j'ai dit, bon, ça me paraît curieux. Non, il n'y a pas de doute, il faut absolument venir. Nous ne passerons pas, mais enfin, il faut venir. Et je dois dire que j'y étais surtout parce que je pensais qu'on n'allait pas passer. C'était un petit peu une manifestation de solidarité. Alors, ils m'ont mis en tête de liste. Et puis, à surprise générale, nous avons eu 90% des voix. Et voilà comment je suis devenu un homme politique. Moi, j'étais communisant. À cette époque-là, tous mes amis étaient communisants ou communistes. Et puis, une fois que j'y étais, tout de suite après, il y a eu des élections législatives. Alors, même processus, on m'a dit, il faut y aller. Bon, c'est ainsi que je suis devenu député.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne vous êtes pas rendu compte des difficultés de réalisation auxquelles vous ne pensiez pas?
Ah, j'ai tout appris, j'ai tout découvert. Et d'abord les difficultés, bien sûr. D'abord ce que c'était qu'un parti, et les concessions qu'il fallait faire, et tout le reste. Et là, bien entendu, mon vieux fond sauvage n'a pas aidé beaucoup les choses, je dois dire. Mais enfin, j'ai pris beaucoup sur moi-même, et vraiment, j'ai essayé de faire ce qu'on attendait de moi. ça n'a pas été facile. Et j'étais mal à mon aise dans tout ça parce que je ne m'y reconnaissais plus. Et c'est encore quand même, en grande partie, au moment où j'y étais, permettez l'expression, une affaire de blanc. Alors, bon, mais j'ai fait ce que faisaient mes ancêtres. Et vous savez, mais ils foutaient le camp. Ça s'appelait être des nègres marrons. Et j'ai fait le nègre marron, c'est tout.
Et voici maintenant quelques extraits du discours sur le colonialisme de Aimé Césaire.
Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort. Une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « comme c'est curieux ». Mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Et c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous. On a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non-européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, mais qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux traits distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère impuissante à fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. On a faim de découvrir en moi un ennemi de l'Europe et un prophète du retour au passé anté-européen. Pour ma part, je cherche vainement où j'ai pu tenir de pareils discours. Où l'on m'a vu sous-estimer l'importance de l'Europe dans l'histoire de la pensée humaine. Où l'on m'a entendu prêcher un quelconque retour. Où l'on m'a vu prétendre qu'il pouvait y avoir retour. La vérité est que j'ai dit tout autre chose. Savoir que le grand drame historique de l'Afrique a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde que la manière dont ce contact a été opéré. Que c'est au moment où l'Europe est tombée entre les mains des financiers et des capitaines d'industrie les plus dénués de scrupules que l'Europe s'est propagée. Que notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons rencontrée sur notre route et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Par ailleurs, jugeant l'action colonisatrice, j'ai ajouté que l'Europe a fait fort bon ménage avec tous les féodaux indigènes qui acceptaient de servir, ourdi avec eux une vicieuse complicité, rendu leur tyrannie plus effective et plus efficace, et que son action n'a tendu à rien de moins qu'à artificiellement prolonger la survie des passés locaux dans ce qu'ils avaient de plus pernicieux. J'ai dit, et c'est très différent, que l'Europe colonisatrice a tenté l'abus moderne sur l'antique injustice, l'odieux racisme sur la vieille inégalité. Que nul ne sait à quel stade de développement matériel eussent été ces mêmes pays sans l'intervention européenne. Que l'équipement technique, la réorganisation administrative, l'européanisation en un mot de l'Afrique ou de l'Asie n'étaient, comme le prouve l'exemple japonais, aucunement liés à l'occupation européenne. Que l'européanisation des continents non européens pouvait se faire autrement que sous la botte de l'Europe. Que ce mouvement d'européanisation était en train, qu'il a même été ralenti, qu'en tout cas il a été faussé par la mainmise de l'Europe. À preuve qu'à l'heure actuelle ce sont les indigènes d'Afrique ou d'Asie qui réclament des écoles et que c'est l'Europe colonisatrice qui en refuse. Que c'est l'homme africain qui demande des ports et des routes. Que c'est l'Europe colonisatrice qui à ce sujet lésine. Que c'est le colonisé qui veut aller de l'avant et que c'est le colonisateur qui retient en arrière.
Vous écrivez en français. Peut-on vous demander quelle est l'importance du problème de la langue pour vous ainsi que pour les nations africaines?
D'abord, à mon niveau personnel, ce n'est pas un problème, mais en même temps, c'est un problème. Ce n'est pas un problème parce que, effectivement, le français, c'est la seule langue que je connaisse. Et je peux difficilement penser sans référence à des écrivains français qui s'appellent Pascal ou qui s'appellent Baudelaire ou qui s'appellent Rimbaud, par exemple. Par conséquent, c'est le seul instrument, si vous voulez, que je possède. Moi, j'aurais été absolument incapable d'écrire dans la petite langue locale qui s'appelle le créole, à mon avis, qui n'a pas de dignité de langue. Et qui pourrait être une langue, bien sûr, mais il aurait fallu faire sur ce langage le travail que les Français ont fait sous la leur du 13e au 6e siècle, par exemple, si vous voulez. Bon. Mais est-ce à dire que je suis un écrivain français pour autant? Non. Mais j'ai toujours voulu, même en écrivant en français, que c'est une langue qui est très belle et que j'aime passionnément, mais c'est un très magnifique instrument, mais j'ai toujours voulu plier cette langue et la contraindre à exprimer ce que je considérais comme étant ma personnalité, si vous voulez. Au fond, qu'est-ce qu'ont fait tous les grands poètes français depuis Rimbaud? Ils ont bel et bien refait la langue, ils ont refait les mots de la tribu, ils ont refait la langue pour l'accommoder à la sensibilité personnelle. Par conséquent, c'est une démarche absolument... Il y a d'illustres précédents, mais et nous aussi, nous devons faire cela. Il s'agit de broyer le français, et c'est pourquoi le surréalisme était intéressant pour nous, la mesure où ça faisait tout péter, les formes toutes faites, n'est-ce pas? Et pour y couler de nouveaux rythmes, colorer le français différemment, ça, je crois que c'est une chose qui est possible et c'est la direction à laquelle nous devons nous engager. On pourrait toujours dire que l'Afrique devrait parler sa langue. Malheureusement, en Afrique, il y a 600 langues.
Il y a un dialecte qui éventuellement pourrait avoir la primauté.
Les langues africaines sont extrêmement riches. D'ailleurs, on peut encore les enrichir. Par conséquent, théoriquement, ce n'est pas impossible. Mais cela supposerait une puissance politique. Comment imposer tel dialecte, telle langue, plutôt que telle autre? Quand on pense que le moindre État africain, même ceux qui n'ont que 2 ou 3 millions d'habitants, on y parle 6 ou 7 langues. C'est énorme. C'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'à nouvel ordre, l'Afrique a besoin, à côté de ces langues qu'il faut défendre, qu'il faut illustrer, qu'il faut maintenir, a besoin d'une langue véhiculaire. Et tantôt c'est l'anglais, tantôt c'est le français. Mais il faut absolument le maintien, le développement des langues vernaculaires. C'est un trésor qu'une langue, il ne s'agit pas de laisser périr, détruire ce trésor. Je dis simplement qu'il s'agit d'un modus vivendi. Et je crois que jusqu'à nouvel ordre, et pour très longtemps encore, l'Afrique ne sera pas francophone, elle ne sera pas anglophone, mais elle sera bilingue, au moins bilingue. Bilingue, autrement dit, il y aura une langue de communication individuelle et puis une grande langue internationale, si vous voulez.
Peut-on vous demander si vous avez des préoccupations qui vous sont plus personnelles que celles dont vous avez parlé dans le discours sur le colonialisme?
Mes obsessions sont plus collectives que personnelles. Je suis certainement très individualiste, c'est sûr, mais terriblement attaché à ces problèmes que vous retrouvez partout dans mes livres et qui constituent vraiment l'essentiel de ma vie. C'est pourquoi une biographie de moi se confond assez avec celle peut-être d'une génération. Les problèmes de la race noire, les problèmes de l'Afrique sont pour moi des problèmes vraiment vitaux. Je crois que c'est presque plus important pour moi que les problèmes personnels de la vie ou de la mort.
Ma face de monnaie très usée, brusquement redécouverte dans tes fouilles. Ta face brusque et de bête des eaux suprêmement élégantes, l'une contre l'autre par évents et désastres, soufflant espace à ton plafond trop bas, du fond du temps une insulte mémorable. Maison mousson, onduleuse nageuse aux yeux anciens d'abîmes comblés, marabouts et serpents noués, cicatrices d'horizons joués, selon la force de la fausse nuit, où nous montons en serpents d'eau de climat sibyllin, qui de leur tête désarmée, par la solennelle touffeur de continents nés, splendides, nous font un toit.
C'était « Au cours de ces instants », une émission réalisée par José Pivin, qui présentait aujourd'hui Aimé Césaire et la révolte. Des extraits des œuvres de Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, Discours sur le colonialisme, Ferment et les armes miraculeuses, étaient interprétés par Jean Negroni, Jean Topard, Alain Cuny et Med Hondo. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Yann Parentehen. Assistant, Daniel Long.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 janvier 1966. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. You do something to me, something that simply mystifies me. Tell me. Why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me lift me through a spell. Do that you do so well for you. Do something to me that nobody else can do. Something to me that nobody else could do.